au 3e congrès national des procureurs généraux sur les narcotiques et les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide...
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Tu te merdes.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Canus, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Et comme tous les lundis soirs, et ben c'est Cannabis Circus, l'émission du cirque du collectif d'information et de recherche cannabique.
Voilà, qui est encore en vie.
Qui est encore là.
24 ans après. Et ben on est là parce que ben, y a encore plein de choses à dire dans cette France prohibitionniste. Qui, la semaine dernière, c'était fin juin, en tout cas à Lyon, par l'intérieur de sa police, s'est bien ridiculisé. Voilà, on va en parler, on va bien rigoler.
Tout à fait, bah, le Canu Info s'en est déjà fait l'écho, mais nous allons revenir
j'en doute
là-dessus.
Pas. Rébellion aussi a relayé l'info, comme beaucoup de... pas mal de médias, ça a fait couler un petit peu d'encre dans la presse...
locale et même nationale.
On va s'en délecter une partie de l'émission.
Voilà, et après on reviendra un petit peu sur le chanvre, l'avenir des agriculteurs biolandais. Voilà, une grande discussion aussi entre chanvre et cannabis, est-ce que c'est la même ou pas la même plante. Un article reviendra là-dessus aussi. Et puis on ira faire un tour un petit peu de par le monde, un petit peu aux Pays-Bas, où les banques ne laissent pas passer le business cannabique et... subventionnent ou font des prêts et travaillent beaucoup. On reviendra aussi avec une étude américaine sur les bienfaits du cannabis médicinal contre la douleur et que beaucoup de patients le préfèrent le cannabis aux opioïdes. Voilà, on reviendra aussi sur le Canada où il y a peut-être même une pénurie qui se profile avec la légalisation. Nous irons faire un tour aussi aux USA où les marijuana s'invitent à la noce avec le cannabis et le nouveau champagne avec des mariages cannabiques. On reviendra un petit peu là-dessus. On ira voir aussi sur une étude qui est moins plaisante mais qui montre qu'en Californie, la culture de cannabis fait augmenter de 10% la note de la Californie en électricité. Et donc, vu que beaucoup d'électricité est produite à base de charbon et de gaz naturel, et ben ça augmente l'effet de serre. Voilà, et puis encore, on revient de nouveau sur le Canada avec un panneau qui détecte le cannabis. Voilà, c'est un panneau qui a été installé à un an de la légalisation, puisque celle-ci aura lieu là-bas le 1er juillet 2018. Et puis enfin, la New-Zélande qui songe aussi à légaliser, encore un pays qui se lance... dans l'aventure anti-prohibitionniste.
Voilà, c'est pour le thérapeutique seulement.
C'est que pour le thérapeutique.
Il me semble bien, oui.
Oh, c'est presque le chanvre global, j'avais l'impression. Mais bon, on reviendra là-dessus.
Ah oui, si, t'as peut-être raison. Ouais.
On reviendra là-dessus. Voilà, on va juste commencer par deux petites brèves. Pas drôle du tout, qui montrent quand même la dureté et l'absurdité de la prohibition. Alors, une en Albanie et l'autre dans la Manche. Donc, on va commencer par l'Albanie, où c'est une Française qui a été arrêtée, tenez-vous bien, avec 117 graines de chanvre. J'ai dit bien des graines, pas du chanvre, pas du cannabis, juste des graines.
Oui, ça se trouve, en plus c'est du chanvre agricole.
Et a priori, en plus, oui, c'est du chanvre agricole, puisqu'elle l'a acheté sur un marché.
Elle a cru que c'était des graines à manger, en fait.
Tout à fait.
Ouais, bah, c'est ce qui existe d'ailleurs. Hein.
C'est que... D'ailleurs, toutes les graines sont à manger.
On connaît bien notre partenaire Ananda, par exemple.
Voilà, on peut les griller, on peut les saler,
les torréfier, les
meilleurs, mais on peut les manger comme ça. Hein. C'est... On n'a aucune. C'est même assez, assez bon.
C'est même très bon.
Voilà, donc cette pauvre jeune fille de, ou jeune femme de 21 ans...
qui est originaire de Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence.
Est quand même emprisonnée à Tirana donc, depuis le 15 juin à cause de ses 117 graines. Et elle risque quand même jusqu'à 14 ans de prison.
Oui, c'est pas rien. Ouais.
Voilà, donc dans un des pays quand même qui est le plus gros fournisseur d'herbes en Europe, ils vont s'en prendre à une pauvre petite Française qui a eu la malencontreuse idée d'acheter des graines sur un marché de fruits et légumes. Voilà, elle croyait que c'était des graines de chanvre et comptait les manger, jure son père. En tout cas, ils essayent de la faire sortir de prison, de payer sa caution qui s'élève quand même à 5000 euros, ce n'est pas rien. Et leur avocat essaye d'obtenir le transfèrement de la jeune fille en France. Voilà, donc elle comparaîtra devant un juge le 17 juillet. On essaiera de vous tenir au courant de cette triste histoire.
Ouais, c'est vraiment... c'est assez incroyable, quoi.
Voilà, autre petite brève bizarre, quoi bizarre, ou qui rappelle ce qui se, que la prohibition sévit toujours en France. C'est un jeune homme qui circulait en scooter, qui a été contrôlé par la police et qui a découvert 2 grammes de cannabis sur lui. Donc, ils ont perquisitionné à son domicile, hein, vu le, l'état du délit.
Vu la quantité, oui.
Ils ont encore trouvé 1 gramme de cannabis supplémentaire. Donc, 3 grammes.
3 grammes.
3 grammes.
Oula.
La garde à vue ne s'est pas très bien passée. Bon, alors, a priori,
il est un peu déraillé, le gars.
Ouais. Est un petit peu dérangé.
Ben, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, il a invoqué Daesh. C'est pas trop ce que ça vient foutre là, voilà, mais bon, en tout cas, lui, là, il...
Alors, pour ces faits, il comparaîtra le 9 septembre 2017, mais pour les 3 grammes, le tribunal l'a quand même condamné à 3 mois de prison avec sursis.
Ferme, ferme.
Ah oui, ferme,
ferme. Donc ça fait 1 mois le gramme.
1 mois le gramme.
1 gramme par mois, voilà. Donc là, on a vraiment une... Alors bon,
une application assez dure de la loi.
Oui, après
ceux qui nous disent que la loi n'est pas appliquée en France, ce n'est pas vrai.
Après l'article, ouais, après l'article est écrit de telle manière qu'on peut penser que l'attitude du contrevenant lui a aussi coûté quelques mois de prison, quoi.
Sans doute.
Ceci dit, c'est pas dans la loi, hein, normalement. Hein. Enfin, si on se comporte mal en garde à vue, on peut être poursuivi pour un délit d'outrage, à la rigueur. Là, c'est pas mentionné. Donc bon, 3 mois ferme pour 3 grammes, quoi. C'est quand même assez incroyable. Bon, on écoute un peu de musique et on revient pour parler un peu de ces policiers lyonnais.
Et de cette ère de détente.
Voilà.
Tout de suite, tu en crèves vite. rien dans mon KGB. Y a des journaux, alors je les lis, qui disent que le bonheur c'est peut-être qu'un bobard. Je m'en fous, j'attendrai pas la fin de mon histoire. Je fume pour oublier que tu bois. Je fais comme chez moi, je renvoie la fumée sur un poster de toi. La vie c'est comme une overdose. On crève et vite. Et si tu ne prends pas, c'est la vie qui t'a. Oui, mais pour la tarte aux pommes, deux ou trois golden, un petit verre de rhum, un bâton de cannelle. Roulez, roulez bien la pâte. Introduire dans l'âtre, ça me coûte, le goutte à goutte, goutte à goutte, goutte.
Écouter un bashung, je bois pour oublier, quoi, je fume pour oublier que tu bois, pardon.
Voilà, petit morceau de bashung, inédit, encore une fois. Donc, on va s'intéresser à cette nouvelle, à cet article. Donc, ça s'est produit. Alors,
ça s'est produit à Lyon. En fait, ça commence surtout avec un grand article du Progrès qui fait la.
Que j'ai pas retrouvé d'ailleurs.
Qui fait pas la une, mais en tout cas c'est un grand article en disant que les policiers lyonnais viennent de tomber à Confluence sur 400 mètres carrés de chanvre et de cannabis.
140 mètres carrés.
140 mètres carrés.
Ce qui est déjà pas mal, mais ce qui est pas énorme. Hein, 140 mètres carrés, c'est pas non plus des hectares de plantation. Quoi.
Lyon Mag parque jusqu'à 400 mètres carrés de plantation. Ah.
Donc ils sont pas d'accord sur les
illicites laissés sous. Alors après, faut voir puisque en fait c'était une œuvre d'art qui était faite dans le.
Ah oui, jusqu'à 400 mètres carrés, effectivement.
Dans le cadre de.
D'une exposition d'une biennale d'architecture qui s'appelait Aire d'attente.
Et donc il y avait plusieurs plantes hein, puisqu'il n'y avait pas que du chanvre, il y avait aussi du lin, si je me trompe pas. Et de l'orge qui avait été
oui,
semée
tout à fait,
pour,
oui.
pour l'opération donc AIRE d'attente. Donc,
je trouve pas la date.
Les policiers étaient tout contents de leur découverte. Donc, ils ont pris leurs ordres et leurs directives. On leur a dit de tout arracher, de tout peser. Donc, tout est détruit évidemment. Et puis. C'est là qu'ils se sont aperçus que c'était dans le cadre de l'opération artistique, d'une opération artistique.
Je trouve que tu vas un petit peu vite en besogne quand même, parce que avant de tout arracher, ils ont quand même pris renseignement Alors, t'expliques, hein, effectivement. Mmh. Ils ont pris renseignement auprès de leur hiérarchie et apparemment, ils ont quand même dit à leur hiérarchie qu'ils pensaient que c'était pas du cannabis qui se fume. Mmh. Donc, ce qui veut dire que déjà, ils savaient que c'était pas psychoactif, que du coup, c'était potentiellement légal, mais on leur a quand même confirmé l'ordre de tout détruire. Je trouve que c'est ça qui est encore, je trouve que c'est pire encore. Enfin, c'est ouais, ça, je trouve ça absolument incroyable.
Et donc tout a été détruit forcément. Mais voilà, la seule chose, c'est que ce n'était pas du chanvre psychoactif.
Comment dire ? Alors, décharge, on peut effectivement reconnaître que, parce que c'est ce qu'ils disent, ils disent oui, mais nous, on intervient. Il n'y a aucun panneau qui signale l'expérimentation et la présence de cette culture. Bon, c'est vrai qu'effectivement, dans le cadre d'une exposition, peut-être un petit panneau aurait pu. Ou alors, il y en avait un, ils ne l'ont pas vu, hein, c'est possible aussi.
Si je ne me trompe pas, les cannabiculteurs doivent signaler qu'ils plantent du chanvre, même si c'est du chanvre à moins de 0,2% de THC.
Voilà. Bon, alors là, effectivement, pour l'exposition, il semblerait que les organisateurs de la Biennale d'architecture aient oublié de mettre un panneau.
Voilà, mais en tout cas, les organisateurs de la Biennale d'architecture sont... un petit peu désemparés.
Ils sont fous furieux.
Ils devaient se retrouver le samedi 8 juillet là-dessus. Et ils sont, oui, vraiment un peu furieux. En effet, que l'enquête ait aussi été expédiée et que, voilà, que les choses se soient faites de cette façon.
Ouais, alors, moi, ça me fait quand même penser à... Enfin, c'est la feuille de cannabis ou le plant de cannabis... S'il est visible dans l'espace public, ça crée vraiment une panique morale, quoi. C'est quand même à ça, moi, que ça me fait penser. On est en pleine chasse aux sorcières.
Ah bah oui.
C'est quand même ça, le fond du problème, quoi. C'est-à-dire que si ça se remarque d'une quelconque manière dans l'espace public, sur un t-shirt, une casquette, un pins, ou le plan, alors là, bon, j'en parle même pas, on voit ce qui se passe. Mais ça veut dire une intervention urgente et immédiate des forces de police pour effacer la présence dans l'espace public de ce qui peut faire penser à quelque chose qui serait du cannabis ou du chanvre, ou, enfin les deux, c'est la même chose. Hein. Et du coup, voilà, enfin, c'est la panique,
Ouais, ouais. Tout à fait. Bah, on avait déjà vu ça hein, dans certains sites ou dans certains musées de botanisme ou autres. Il y a les différentes drogues, les poisons ou les différentes plantes. Donc on voit du pavot, on voit plein de petites choses. Et il y a la drogue la plus dangereuse, le cannabis.
Ouais.
Voilà. Et surtout, donc, c'est là qu'on arrive à notre article suivant sur... sur la bêtise prohibitionniste qui mérite quelques explications, parce que justement, de temps en temps, on parle de chanvre, de temps en temps, on parle de cannabis. Certains disent que c'est deux plantes différentes, mais que nenni, ce n'est qu'une seule et même plante, c'est juste des espèces différentes. La vérité est que le chanvre est le terme français, et que l'autre est le terme latin, ou son taxon, pour reprendre son nom, donc,
son
en
quoi,
botanique.
Son taxon.
Nom en botanique.
D'accord.
C'est du cannabis sativa L, c'est comme ça qu'il avait été décrit par Linné, je crois.
Linné, oui, c'est ça, ouais.
Si je me souviens bien. Les variétés, c'est indica pour l'Inde, donc le cannabis indica. L'article appelle aussi le cannabis batavia pour celui des Pays-Bas, ou l'helvetica pour celui de Suisse, l'ibérica pour l'Espagne, etc.
Et chez nous, ça serait Francia occidentalis. On pourrait le dénommer de la sorte dans des termes botanistes. Voilà,
sachant qu'en France, elle a toujours été un grand pourvoyeur de chambre.
Producteur, oui.
On se souvient qu'il y a des cartes anciennes du début du XXe siècle où il y avait la France et différentes cultures et il y avait plusieurs zones avec du chanvre qui était la culture principale de pas mal de contrées françaises. Et c'était du chanvre un petit peu psychoactif. Pas très puissant,
ouais, parce que
on peut bien le reconnaître.
Oui, puis je pense qu'à l'école, à l'époque, ils s'embarrassaient pas de savoir s'il avait 0,2, 0,1, 5, 2, 3, 8 % de THC. Hein.
Parce que le problème, c'est qu'avec la loi et l'interdiction de faire pousser du chanvre avec 0,2% de THC,
avec l'autorisation,
avec moins de 0,2% de THC, c'est que c'est très compliqué. Et la Fédération Nationale des Producteurs de Chanvre, la FNPC, ou l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, travaille pour très très fort pour arriver à produire ces graines qui produisent un chanvre avec moins de 0,2% de THC. Et encore, il faut le prendre à la bonne époque, c'est-à-dire que une fois qu'il a bien poussé, une fois qu'il a fait beaucoup de graines, et donc qu'il a éversé toute son énergie dans la fabrication de graines, et non pas dans la fabrication de pollen ou de résine, comme le fait le chanvre...
Psychotrope.
Non, le chanvre qui n'a pas été pollinisé.
Ah,
d'où les sensimilia que les cultivateurs font en général, c'est-à-dire sans graines, pour qu'il y ait justement la plante continue à produire de la résine pour essayer d'arriver à coller les quelques pistils mâles qui pourraient traîner dans l'air.
Pour assurer la reproduction, parce que c'est quand même ça.
C'est le but de toutes les plantes.
De toutes les plantes, oui.
Et de tous les organismes vivants.
Donc en fait, pour avoir ce chanvre de faible teneur en THC, pour pouvoir faire des analyses à moins de 0,2, ils utilisent donc environ 200 plants de chanvre, comme tu dis, qui ont donné toute leur énergie dans la production de graines, qui sont donc des plants prêts à être moissonnés, on va dire ça. Ça veut dire que tout le chanvre qui pousse en France, il faut qu'il soit environ de 15 à... 200, enfin, il faut pas que les hectares, en fait, toute la mesure dépasse 0,2%. C'est un peu ça, quoi. Mais il faut quand même une grosse quantité de chanvre.
Oui.
C'est plusieurs milliers d'hectares, c'est ça, hein ?
Oui, oui.
Ouais.
Ouais, okay. C'est 200 plants, a priori, d'après ce que dit l'article.
D'accord, ok.
Donc, ce qui montre aussi que c'est une vaste fumisterie, c'est que les chanvriers n'ont pas le droit de replanter les graines qu'ils ont produites. Puisque celles-ci, de génération en génération, remonteraient naturellement leur taux de THC à quelques pourcents.
Voilà, donc c'est pour ça que tous les chanvriers en France qui font pousser du chanvre n'ont pas le droit de réutiliser leurs semences d'une année sur l'autre, parce que il n'y a plus de stabilité au niveau du THC, en fait. Et du coup, ils sont obligés de racheter tous les ans des graines. Un peu comme doivent le faire ceux qui se pourvoient en graines Monsanto, en fait, même au niveau des OGM. Toutes les années, il faut qu'ils rachètent des semences. Donc, voilà. Après, ce qui s'est quand même passé, c'est que il y a quand même eu des paysans chanvriers en France qui ont été poursuivis pour trafic de stupéfiants après que des jeunes aient vu des champs pousser, qu'ils en aient pris, qu'ils se soient fait arroder, qu'ils se soient fait arrêter, et que les policiers ou les gendarmes aient fait une analyse des plantes qu'ils avaient volées, et que du coup pour certains il y avait un taux de THC supérieur à 0,2%. Et du coup, les jeunes qui avaient piqué les plants de cannabis dans le champ ont dit on l'a trouvé dans ce champ. Et du coup, le producteur, lui, il s'est fait poursuivre après par la police parce que peut-être il y avait 0,5% au lieu de 0,2%. Enfin, c'est complètement ubuesque.
Voilà. Et la grosse problématique, c'est que la biodiversité, avec tout ça, diminue.
Voilà.
Voilà, donc la FNPC et l'INRA continuent à détenir donc le monopole des semences chanvrières en France et n'acceptent pas qu'il y en ait d'autres Même si c'est ce chanvre là est plutôt assez dégénéré.
Oui, c'est du chanvre de merde, il faut le dire. C'est du chanvre de mauvaise qualité en fait.
Et je suis même pas sûr que la fibre produite soit de bonne qualité.
Oui, je suis pas sûr non plus. Parce que justement, l'argument un peu scientifique, c'est que normalement, du chanvre qui serait pas trafiqué pour devenir ce qu'il est là, et la plante est en fait dioïque. Mm. Voilà. Et que du coup, en faisant tous ces croisements pour fabriquer du chanvre qui va plutôt être riche en fibres, eh bien, on en fait un chanvre monoïque. Voilà, donc dégénéré effectivement. Alors, certes moins riche en THC, mais finalement moins riche en capacité de production, même de fibres, hein, comme tu dis, qu'un vrai bon chanvre naturel, qui serait peut-être un peu plus psychotrope. Voilà. Voilà comment on en arrive à faire du chanvre agricole en France, qui serait du chanvre légal, c'est-à-dire en trafiquant du cannabis et en le rendant de mauvaise qualité. Voilà.
Voilà. Et donc nous passons tout de suite à un autre article de Positive VR.
Positiver,
chanvre à venir des agriculteurs bio landais.
S'ils ne croisent pas une brigade de la police municipale lyonnaise.
Eh oui. Alors, ils expliquent qu'il est cultivé en seulement 3 mois. Ça m'étonne un peu. Il me semble que le chanvre à faible teneur de THC a bien quand même besoin de plus que 3 mois.
Bah, non, si il compte à partir du moment où il est planté, genre au mois de mi-juin, et qu'il le récolte mi-septembre, c'est à peu près ça, quoi.
Voilà, donc
je pense que dans les 3 mois, ils comptent pas toute la phase de croissance, de maturation, etc. C'est sûr.
Voilà, donc le journaliste fait toujours la confusion entre cannabis et chanvre en expliquant que c'était une cousine. Mais bon, comme nous venons de le dire, c'est une sœur. Donc en Nouvelle-Aquitaine, il y a pas mal de. Et entre autres, un cultivateur, Vincent Lartisien. Qui veut se mettre au chanvre, puisque c'est quand même une plante multifonction qui peut être aussi bien utilisée en alimentaire, en textile, en médecine douce ou même dans le bâtiment. Il a persuadé une quarantaine d'agriculteurs bio de se joindre à lui. Et donc, il cultive le chanvre et il essaye d'en exploiter toute la filière et toute la plante. Voilà, il rappelle que les Chinois l'utilisaient déjà il y a plusieurs milliers d'années en alimentaire, en cosmétique, en thérapeutique. Dans des pyramides égyptiennes, certaines ont été construites avec du béton de chanvre. Donc, c'est vraiment une fibre et une plante qui est utilisée quand même depuis des millénaires. Donc, lui, il veut faire des t-shirts en chanvre.
Ou en coton bio.
Voilà, il explique que. La fibre de chanvre repousse 90% des UV, en plus d'être anti-allergène et antibactérien. Bref, pour lui, c'est une très belle plante. Et donc, il achète 2000 euros la tonne de chanvre. Ce qui est...
Non, il la vend. Non, ça, c'est son prix de vente. C'est-à-dire que... Ça, c'est le prix de la graine, je pense.
Je crois que c'est son prix d'achat. Quoi, c'est lui qui l'achète à 2000 euros, parce que lui est plutôt n'est pas agriculteur, mais il est plutôt dans la transformation dédiée au chanvre.
Ah, Vincent, d'accord, j'avais mal compris alors. Ok. Autant pour moi.
Voilà, donc l'article fini. Alors, si vous voyez fleurir des hectares de chanvre à travers les Landes, ne vous inquiétez pas, cela n'a rien d'illégal. C'est seulement rentable, écologique et bio.
Mais non, écoute, non, je reste sur ce que je pense, parce que regarde, il dit ça me permet de me diversifier, de faire des rotations entre les cultures d'hiver et les cultures de printemps. Ça veut bien dire qu'il la plante, qu'il le plante.
Oui, mais ça, c'est les paysans.
Oui, ok, d'accord. Bon, bah écoute, je sais pas.
Il fait peut-être les deux, il fait peut-être
moi,
aussi la culture.
Moi, je crois qu'il fait les deux,
je pense
bah, oui,
fait
parce
la culture
que...
et la transformation.
D'accord.
Mais comme il ne fait pas assez de culture, il a persuadé d'autres paysans de faire comme lui.
D'accord.
D'en planter aussi.
Okay. Bon, il y a des trucs, c'est pas très clair dans cet article. Alors, c'est intéressant sur le fond, mais On peut lire par exemple que en faisant du pressage de graines, en fait, eux, ils obtiennent de la poudre et ils parviennent à en extirper de l'huile. Nous, ce qu'on sait, c'est que ça marche pas comme ça. Quand on presse des graines de chanvre, on obtient des tourteaux et on obtient de l'huile. Mais de la poudre, je sais pas comment ils font de la poudre, avec quoi, j'en sais rien. Là, c'est un petit peu compliqué. Je suis pas sûr que Victoria Wisher, la journaliste qui a couvert ce sujet,
ait bien tout compris
ou qu'on lui a peut-être pas très bien expliqué en Nouvelle-Aquitaine comment tout ça se passait. En tout cas, voilà, il y en a qui sont intéressés, qui veulent exploiter leur... qui veulent exploiter du chanvre et qui sont prêts à en faire pousser. Et encore une fois, voilà, il vaut mieux pas qu'ils tombent sur la police municipale lyonnaise qui va venir tout arracher dans leur champ, quoi.
Eh oui.
Voilà.
Gone, gone, gone. One, two, and one, two, three. Ganja in the morning, ganja in the night, ganja anytime you want. Ganja in the morning, ganja in the night, ganja anytime you like. Cause I feel happy. Anytime you think of it, anytime you roll it. Don't be small, don't smoke it all. Don't make my joints so small. Cause ganja, ganja, ganja's right for me. Cause ganja, ganja, ganja's right for me. Ganja, ganja, marijuana. Ganja, ganja, marijuana. Ganja, ganja, marijuana. Ganja, always ganja, always marijuana is what we need. Ganja, always ganja, always marijuana is what we need. Ganja, always ganja, always marijuana is what we need. Ganja, 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 marijuana. Ganja, anytime you want, my baby, I love you so much. It's a genius, guy, you want marijuana.
Aïe, aïe, aïe.
Voilà, Castafiore Bazooka, c'est ça.
Voilà, tout à fait, et la chanson Ganja.
Voilà, si vous n'aviez pas entendu. Alors.
Eh ben la ganja, la Grèce devient le sixième pays de l'UE à autoriser l'usage médical. C'est l'Express qui nous parle de ça. Sauf qu'ils citent plein de pays. Ils citent la République Tchèque, la Finlande, les Pays-Bas, le Portugal et l'Espagne et la Grèce. Ils ouais. oublient au moins l'Allemagne. Voire peut-être même d'autres pays. Donc,
Oui, et puis au Portugal, il n'y a pas de légalisation du cannabis non plus. Hein.
Voilà, tout à fait.
Voilà, donc ils ont un peu tout mélangé à l'Express.
Voilà, mais en tout cas, Tsipras n'a pas encore dévoilé tous les détails concernant la culture et la distribution du cannabis. Mais il a confirmé que le cannabis ferait désormais partie de la classe B des médicaments, comme c'est le cas pour la méthadone et l'opium, dont les vertus médicales ont été confirmées. Donc voilà, en Grèce, le cannabis médical va rentrer...
Va rentrer où?
Dans la
pharmacopée. Ouais, enfin bon. En tout cas, là-bas, oui, c'est reconnu, les propriétés voilà. médicales du cannabis. Voilà, reconnu là-bas, hein. Toujours pas en France, mais... bon...
Voilà, donc sur l'île
une
de
bonne
Crète,
nouvelle.
A priori, il y a aussi beaucoup de cultures illégales de cannabis.
En Grèce, toujours, oui.
En Crète, sur l'île de Crète, voilà. Donc, c'est l'usage du cannabis à des fins récréatives est très répandu en Grèce. Voilà, mais il est cependant très rarement sanctionné. Voilà, en tout cas, bon, ça évolue. Est-ce que Tsipras va même aller jusqu'à la légalisation? Bah, ça, on va voir en général. Il est possible qu'il aille jusqu'à là. Surtout si, comme le dit l'article, il s'inspire du Canada où le marché est quand même. Où la légalisation du cannabis, là-bas, il prévoit quand même 23 milliards de dollars par an de rentrée. Plus que pour le vin.
Plus que pour le vin et l'un des autres alcools en
plus. La Grèce, ça pourrait être quand même une rentrée non négligeable de revenus. Ouais, plutôt alors, que de le prendre à leur pauvre retraité, ça serait mieux de...
Alors, il faut quand même rappeler qu'en Grèce, bon, je pense que beaucoup de gens sont au courant du fait que la Grèce est sous l'été noir de l'Union Européenne et qu'on ne les laisse pas souffler. Mais en 2009, il me semble, hein, pour des raisons économiques, hein, ils avaient dépénalisé. Donc la dépénalisation de l'usage de drogue, et notamment du cannabis, est effective en Grèce pour des raisons économiques. Parce que la prohibition, ça coûte aussi cher à mettre en œuvre. Il y avait beaucoup de gens qui étaient en prison. Donc cette dépénalisation, ça a permis de vider les prisons. Alors par contre, ça n'a pas que des effets bénéfiques, parce que ils ont tellement de problèmes économiques et financiers que ils ne financent plus non plus les structures et les centres de soins pour usagers de drogue. Donc c'est quand même aussi problématique à ce niveau-là. Donc peut-être qu'effectivement, s'ils légalisaient, ça pourrait faire des rentrées d'argent et ils pourraient allouer les recettes au traitement, aux soins, à la prévention, ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui aux États-Unis dans les États qui ont légalisé.
Tout à fait. On va rester en Europe, on va passer aux Pays-Bas, où le commerce du cannabis s'est intégré au paysage économique. On dit souvent que le cannabis est légal aux Pays-Bas, ce qui est néanmoins une erreur, puisqu'il est
Je crois que c'est vrai.
Juste dépénalisé.
Je crois qu'on...
La loi n'a pas changé, c'est toujours écrit.
Est-ce que tu en es sûr ?
Oui, j'en suis sûr.
T'as vérifié ? Parce que je crois que depuis... Mais c'est vraiment très récent. Ils ont fait une loi où ils légalisent.
Ah, peut-être. Alors, je ne l'ai pas vu passer, mais...
Il me semble bien que c'était courant juin.
On vérifiera ce petit point de détail, alors.
On verra ça, mais j'en suis quasi certain, ouais.
Voilà, en tout cas, il y a 570 coffee shops dans le royaume de Hollande. Et donc, il y en a 171 qui...
Non, il y en a 570.
570.
Et il y en a 171 dans lesquels il y a eu des investissements importants de multinationales ou de banques.
Tout à fait, voilà, c'est ça. Pour un montant d'emprunt à 1,1 milliard d'euros, comme quoi ça rapporte un petit peu.
Mais je me demande si c'est pas aussi pour ça, alors on va vérifier encore une fois, mais je me demande si c'est pas aussi pour ça que finalement ils ont légalisé dernièrement. Alors information à prendre au conditionnel encore, mais je me demande si c'est pas justement pour ça
qu'ils auraient légalisé. En tout cas, dans ce secteur
aussi,
ça rapporte, puisqu'ils sont taxés, hein, les coffee shops, et ça rapporte quand même plus de 500 millions par an au fisc hollandais. Si on le ramène à la France, ça ferait quasiment 5 milliards, ou 4 ou 5 milliards. Donc, ce ne serait pas une paille et ça pourrait faire du bien à l'économie.
Ouais, c'est ce que postulent beaucoup de gens, au niveau d'une réforme de la loi en France.
Ça permettrait d'éviter de taxer nos pauvres retraités. Encore une fois. Voilà, autre news, autre article, donc cette fois c'est aux États-Unis.
C'est dans blogcannabis.com.
Voilà, c'est une étude qui a été faite sur 3000 patients qui utilisent différents antidouleurs, soit du cannabis, soit des opioïdes, soit d'autres choses. Et donc 93% des détenteurs de la marijuana médicale préfèrent ce traitement justement aux opiacés ou aux opioïdes, aux antidouleurs opioïdes.
Vas-y. Non, je voulais juste préciser que c'est bien du cannabis médical. Et comporte beaucoup de CBD. Et que c'est probablement le CBD qui a un impact positif sur la réduction des douleurs. Voilà. Parce que je suis pas sûr que du chanvre thérapeutique, mais qui contiendrait plutôt pas mal de THC, je suis pas sûr que ça ait le même impact.
Voilà. Bah, c'est vrai que le chanvre classique, je dirais celui des années 60 ou 70, était, je pense, beaucoup plus mélangé avec des teneurs assez équilibrées en CBD, CBN, THC.
Ça dépend des variétés et autres.
C'est exact. Mais bah, elles étaient moins travaillées.
Oui.
Il y avait moins de recherches.
Certes, mais de toute façon.
Soit du chanvre avec beaucoup de THC, soit du chanvre avec beaucoup de CBD, comme on le voit actuellement, et plus de THC.
Mais de toute façon, on sait bien que du CBD n'est pas forcément efficace. Mais il faut du CBD et un mélange de d'autres cannabinoïdes pour qu'il y ait vraiment un effet positif. Ça, c'est important, hein, parce que même dans le Bedrocan, par exemple, où il y a beaucoup de CBD, il y a quand même un peu de, il y a quand même un tout petit peu de THC, par exemple.
Voilà, bah ça dépend, oui, ça dépend aussi pour quelle maladie. On l'a vu la dernière fois quand on avait fait les. C'est entre autres la sclérose en plaques, je crois qu'il faut un peu de THC, mais d'autres, ça va très bien, surtout les stress post-traumatiques, je crois que ça va très bien qu'avec que du CBD. Voilà, bon, il faudra encore continuer à piocher la question. En tout cas, cette étude peut conclure que les patients médicamenteux au cannabis déclarent avoir utilisé avec succès du cannabis et ont remplacé beaucoup de leurs médicaments à base d'opioïdes. Les patients de cette étude qui utilisent donc du cannabis et des opioïdes déclarent qu'ils peuvent utiliser moins d'opioïdes et que le cannabis présente moins d'effets secondaires indésirables que leurs médicaments à base d'opioïdes. Ce qui mélange un peu les deux. Ils ont quand même, voilà, il y avait 2810 participants qui utilisaient du cannabis et 828 qui utilisaient des opioïdes en plus du cannabis. Voilà, prendre du cannabis seulement était efficace pour traiter leur état et de prendre du cannabis. Avec des opioïdes était plus ou moins efficace. Voilà, bon, donc là, il se répète. En tout cas, il rappelle que juste avec l'usage abusif des opioïdes, il y a quand même une centaine de personnes qui meurent par jour à cause de ces usages abusifs. Donc, ce n'est pas rien.
C'est la cause de mortalité la plus importante aux États-Unis.
Voilà. Il rappelle que...
Des médicaments à base d'opioïdes, hein, même pas des...
Ouais. Il rappelle aussi que les surdoses de médicaments sur ordonnance sont aussi la principale cause de décès accidentels aux États-Unis.
Voilà.
Donc pas seulement des médicaments à base d'opioïdes, c'est tout médicament mélangé. Et il finit par rappeler qu'il n'y a eu aucun surdosage enregistré avec la marijuana, ce que l'on dit depuis longtemps. Voilà, donc le cannabis comme antidouleur semble être aussi une bonne solution pour beaucoup de patients.
Oui, ce qu'on a vu aussi la semaine dernière, c'est qu'il y avait un article là-dessus où il disait que si on utilise des cannabinoïdes, du cannabis thérapeutique notamment avec du CBD, il conseillait quand même d'utiliser des doses raisonnables, notamment quand on commence une thérapie, et que surdoser n'est pas la bonne solution, et qu'au pire, si on surdose trop, ça fait l'inverse des effets recherchés, en fait.
Tout à fait. Donc, c'était entre autres pour le glaucome, ça.
Voilà, ouais. Donc, bon. De toute façon, c'est toujours un peu pareil avec des applications pour des... Voilà, c'est la dose qui fait le poison, ouais. Donc, ou ça fait le remède ou le poison, quoi, en fait. Donc, bon. Mais bon, voilà, au pire, il n'y a pas de risque d'overdose au CBD, par exemple. Qui pourrait provoquer un décès. Non, ça, pour l'instant, c'est pas le cas. On n'a pas trouvé.
Voilà, donc sinon, c'est l'Express qui revient un peu sur le Canada, qui explique, c'est Arnaud Lefebvre qui dit ça, la légalisation du cannabis pour raison médicale et pour usage récréatif risque de mettre le Canada devant un problème surprenant, une pénurie de cette substance.
Alors ça. Alors pour usage récréatif, bon, on fait confiance aux Canadiens, même si la loi n'existe pas, ça fait longtemps qu'ils s'y intéressent. Mais c'est encore pas légal. Par contre, pour des raisons thérapeutiques, c'est quand même déjà légal. Donc l'un dans l'autre, bah oui, ça peut provoquer une pénurie. C'est vrai, ouais, que ça paraît un peu surprenant.
Puisque le cannabis thérapeutique a quand même bien, bien augmenté. Ils étaient 23 930 il y a deux ans et on en compte aujourd'hui 167 750 qui se soignent au cannabis. Ce qui n'est pas rien du tout. Voilà, donc ils reviennent un petit peu sur cette légalisation qui devrait arriver bientôt. Donc il parle de groupes qui produisent actuellement 6 tonnes de cannabis et qui pensent pouvoir en produire 26 tonnes l'année prochaine. Voilà, donc il y a vraiment une exponentielle, une culture, quoi, un nombre de plants exponentiel au Canada, et de plus en plus de gens s'y mettent, et la culture augmente considérablement. Pour finir, une bonne petite chose que j'ai soulignée aussi, c'est que le Premier ministre, M. Trudeau, qui veut la légalisation du cannabis pour, entre autres, protéger les enfants. Donc, voilà, selon lui, les enfants canadiens ont plus facilement accès à un joint qu'à une bière. Donc, c'est aussi pour ça qu'il veut légaliser, pour rendre l'accès au cannabis plus difficile pour les enfants.
Et oui.
Et je pense qu'il est loin d'avoir tort.
Eh ben, ils ont complètement raison. Je pense que si nos politiques et nos pseudo-experts arrivaient à faire cette petite gymnastique de l'esprit dans leur cerveau, on avancerait plus vite. Mais en France, c'est l'inverse. Ils pensent que si on légalise, on va accélérer la disponibilité du cannabis, notamment pour les jeunes. Alors que non, c'est l'inverse. C'est tout l'inverse. Donc bon, je sais pas quand est-ce qu'ils comprendront, un jour peut-être, voilà. J'espère qu'on sera encore là, parce que sinon, c'est triste. Hein.
Sinon, juste pour rester au Canada, c'est infopresse.com qui nous parle de ça, c'est un panneau qui détecte le cannabis, donc c'est le réseau Prohibition qui a profité du 1er juillet, fête donc canadienne, pour dévoiler un panneau publicitaire signé bleu, blanc, rouge, qui fait le décompte jusqu'à la légalisation de la marijuana au Canada, qui va avoir lieu donc le 1er juillet.
L'année prochaine, 2018.
Et donc, pour le 150e anniversaire du Canada, ils ont mis ce panneau en place, donc qui fait le décompte, et qui, en plus, chaque fois que l'on fume autour de ce panneau, et ben, il envoie des tweets
à
Justin Trudeau, Seth Rogen, Drake et d'autres leaders d'opinion de la légalisation du pot.
Du pot.
Du pot.
Le pot, voilà. Le pote, c'est la beuh en québécois.
Voilà. Revenons-en un petit peu aux États-Unis. Donc, on retraverse la frontière. Et là, c'est la marijuana qui s'invite à la noce. C'est Le Point qui nous parle de ça. Adieu ouais. Le champagne, place au cannabar, le bar à cannabis. Outre-Atlantique, le cannabis est la dernière mode pour les mariages à thème. Voilà, donc c'est le...
Bah, il y en a qui, voilà, ils se marient et puis ils veulent fêter ça, pas au champagne, mais à la ganja, en fait.
Voilà, donc il y a plein de gens qui se lancent dans le business. Hein. Il y a Love and Marriage, où il y a aussi Cannabis Wedding
Expo. Mais ça, c'était un salon, ça.
Voilà, oui, c'est un salon.
C'est un salon.
Il y a pas mal de gens, donc une industrie lucrative. Donc il y a des pâtisseries avec des gâteaux au cannabis, des hôtels touristes fumeurs, des spas aromatisés, et maintenant des organismes célébrant les mariages à l'herbe, donc où on amène toutes des buffets avec des cookies ou des chocolats au cannabis, des plateaux avec des joints pré-roulés, des bougies parfumées, ou le canabar où on peut venir chercher comme au bar, on vient chercher sa beuh avec différentes variétés d'herbes qui sont proposées.
Et même, vous pouvez même demander à ce que la boîte que vous sollicitez pour votre mariage, vous pouvez même leur demander qu'ils fabriquent une variété spéciale pour votre mariage.
Voilà, tout à fait.
Alors, il y a quand même des petites anecdotes rigolotes, parce que, bon, quand même, ils se doutent bien que ça peut des fois choquer un peu la famille ou la belle-famille, des personnes un peu plus âgées. Donc, dans certains mariages, certains couples choisissent d'installer, en fait, le bar dans un coin un peu discret pour qu'on voit pas trop. Et du coup, il y a eu aussi des cas où, selon les mariages, on a voulu un peu initier la belle-maman à la fumette. Donc c'est un peu un cas qui s'est produit. C'est une grand-mère de 82 ans qui a été encouragée par son petit-fils pour essayer du cannabis. Donc une dame là qui fait partie d'une société qui était présente, elle raconte qu'elle a fait boire un soda à la myrtille contenant une petite dose de cannabis à la grand-mère, et qu'une heure plus tard, ben la grand-mère avait la pêche, en fait, et qu'elle se déhanchait sur la piste de danse, et qu'elle est même retournée voir le canabar pour leur demander s'il y en avait encore. Voilà. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que ils font intervenir dans certains mariages des barmen un peu sensibilisés à la question, qui sont là aussi un peu pour. Le barman en l'occurrence est un bodman, voilà, qui est là un peu pour expliquer, conseiller et garder un œil sur les convives qui voudraient éventuellement en abuser un peu trop. Ça, je trouve que ça bien, parce que je suis pas sûr que les barmans eux-mêmes qui servent de l'alcool, ils jouent ce rôle. Tout à fait. Mais là, voilà, le bodman en l'occurrence, il peut aussi faire office d'agent de prévention.
Voilà, donc après, ils disent aussi que les organisateurs font attention et ils déconseillent de mettre au menu que des aliments truffés de marijuana. Parce que voilà, c'est quand même assez difficile à doser, il faut pas en abuser parce qu'on peut quand même bien délirer. Et surtout que certaines doses sont parfois un peu fantaisistes, dit l'article. Donc voilà.
Voilà, et dans certains endroits, dans certains mariages, ils vont même jusqu'à distribuer des tests urinaires pour que les convives puissent tester leur niveau de positivité avant de prendre le volant. Ça aussi, c'est bien.
Voilà, et la conclusion de l'article, la grande différence par rapport au mariage habituel, disent tous les spécialistes, est que la mariée n'est jamais stressée.
Ah, bah si elle en consomme, oui. Un peu de musique ?
Allez, encore
avant
un peu de musique.
Avant de vous relater quelques petites brèves avant de nous quitter. À tout de suite.
Thank you.
Bob Dylan, ça fait du bien. Everybody Must Get Stoned.
Ouais, Rainy Day Woman.
Rainy Day Woman, ouais.
Bon. Une chanson très peu connue. Mais...
Ah oui, vraiment peu, ouais. Rigolote d'ailleurs, je sais pas si vous êtes anglophile ou anglophone et que vous avez compris les paroles de la chanson, mais c'est sympa.
Voilà, voilà, donc on revient juste pour rappeler, donc on en est à 9 États aux États-Unis qui ont légalisé le cannabis récréatif. Hein, donc cette fois-ci, là, l'an dernier, c'était la Californie, le Nevada, le Maine et le Massachusetts. Bah,
le Nevada, c'était la semaine dernière.
Oui, c'était déjà fait, voilà.
Enfin, ils avaient voté, mais là, ils ont fait entrer en vigueur. Et puis là, il y a le Massachusetts, voilà, bientôt, qui va changer aussi.
Et ça se rajoute donc au Colorado, à l'Oregon, à l'État de Washington, à l'Alaska.
Et la ville de Washington.
Et la ville de Washington.
District of Columbia.
Pas un État.
Voilà, qui est une ville, tout à
voilà,
fait.
Voilà. Donc, ça commence à faire presque un tiers de la population
qui est concernée,
américaine, ouais, surtout avec la Californie. Californie d'ailleurs, où alors là c'est Good Planet Info qui nous informe que la culture du cannabis aux États-Unis dépendante des énergies fossiles.
Ah, comment ça se fait ?
Eh oui, en effet, aux États-Unis, 33% de l'électricité est produite à partir de gaz naturel et 30% à partir de charbon. Donc, l'électricité a un impact non négligeable sur l'effet de serre. Et en Californie, justement, qui sont déjà des très gros consommateurs, ils consomment encore 10% de plus que les autres États, a priori, et en particulier à cause des lampes...
Consommateurs d'électricité, hein, c'était ça, oui, dont tu parles. Et du coup, oui, ils utilisent beaucoup d'éclairage artificiel pour faire pousser du cannabis, voilà. Et en fait, l'une des raisons qui fait que c'est comme ça, c'est aussi parce que c'est encore pas légal au niveau fédéral.
Et du donc, coup, ils sont obligés de se planquer.
Et oui, voilà. Ouais. Donc, en fait, c'est ça. C'est encore une fois, c'est la prohibition qui est à l'origine de cette consommation, et que si c'était légal, ils utiliseraient sans doute plus de culture outdoor, donc en extérieur, et qu'ils utiliseraient moins d'éclairage artificiel.
Voilà, donc évidemment, la culture intérieure, c'est pour échapper à la surveillance aérienne.
Les hélicoptères.
Voilà, donc ouais, en plus, la culture indoor, donc en plus des lampes, on utilise des régulateurs de température, des purificateurs, des déshumidificateurs d'air. Voilà, donc...
ça fait tourner
ça fait pas mal de choses et... Et ça fait tourner justement les centrales à charbon et à gaz
qui
Obama voulait fermer et que Trump a relancé.
Ouais.
Voilà, voilà. Donc,
Trump est pro culture du cannabis en intérieur.
On va dire comme ça.
On va dire ça comme ça.
Voilà. Et pour finir, le dernier pays qui songe à dépénaliser le cannabis, c'est la Nouvelle-Zélande, qui va peut-être changer ses lois concernant le cannabis. C'est Newsweed qui nous informe de ça. Voilà, donc le ministre adjoint à la Santé, Peter Dunne, a annoncé un petit changement conséquent qui pourrait se produire sur les lois autour du cannabis. Et comme il est ministre de la Santé, il a aussi annoncé que le cannabidiol serait reclassé pour les médecines généralistes et prescrit aux patients.
Voilà, les médecins généralistes. Ouais.
Voilà.
Donc ils veulent avancer sur le cannabis thérapeutique, et ce que ça laisse entendre, effectivement, contrairement à ce que je disais en début d'émission, c'est que là, il y a plutôt un mouvement de réforme vers le récréatif aussi.
Oui.
Effectivement.
Il existe pour lui donc des opportunités immenses pour les cultivateurs. Nous parlons ici de matières premières. Tout devrait se faire autour de la culture du cannabis, le traitement de la fibre ou encore le nettoyage et le séchage des graines. Cela crée des opportunités pour les entrepreneurs ou pour les personnes d'investir dans cette infrastructure. Voilà, il y a aussi un grand travail à faire pour sensibiliser les médecins au cannabis. Non seulement à propos du CBD, mais aussi à l'ensemble du sujet concernant les médicaments à base de cannabis. Voilà, donc ils ont discuté aussi avec l'association médicale pendant un certain temps pour fournir les meilleures informations aux médecins. Voilà, voilà, donc...
Ils
espèrent aussi, grâce à cette future légalisation, générer 600 millions de dollars par an, ce qui renflerait aussi les caisses de l'État new-zélandais. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils réfléchissent beaucoup à cette légalisation totale. du cannabis.
Voilà, on va se quitter là-dessus, sur cette bonne nouvelle, d'ailleurs.
Ces nouvelles assez positives.
Voilà, peut-être que vous étiez à Clermont-Ferrand à la Fête de l'Humanité ce week-end, et peut-être que vous avez rencontré le cirque, et peut-être même que si vous avez été là-bas et que vous avez rencontré le cirque, et ben vous avez peut-être même eu l'occasion de voir un plan de chanvre sur le stand. Parce que c'est ce qui était un peu prévu, c'était de... En fait, c'est tellement une plante diabolique qu'il faut cacher, qu'il faut pas montrer, sinon, la police municipale lyonnaise vient et vous arrache votre plan, qu'il faut la montrer, finalement. Hein. Sinon, bientôt, on pourra même plus jamais la voir. C'est ce qui se passait à la Fête de l'Humanité à Clermont-Ferrand le week-end dernier. Il y avait le cirque, il y avait un plan de chanvre, et du coup, vous avez peut-être pu l'admirer, ce plan, sans qu'on vous l'arrache sous les yeux. Donc, c'était pas si mal. Donc, voilà, cette émission vous a été, une fois de plus, présentée par le Cirque Lyon, que vous pouvez contacter par téléphone au 06 11 53 10 07, par mail cirque-lyon@no-log.org, par voie postale, c'est encore possible, Cirque Lyon BP 093 043 69 605 Villeurbanne CEDEX, et notre page Facebook, notre page Cirque Lyon sur Facebook, Cirque Lyon et Cirque aussi, pour avoir toutes les infos quasi en direct, en temps réel, très vite. Voilà. Eh bien, Cannabis Circus, c'est fini pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cannabis Circus. Voilà. Et maintenant, c'est Chasseur de Son. À la semaine prochaine. Au revoir.